franceinter.fr.
Mais réveille-toi, putain! On est devant une affaire criminelle! Oh! Des mecs, ils s'en foutent plein les poches sur le dos de la santé des gens! Si le système est pourri, c'est bien à nous, médecins, de nous battre pour que ça change!
Les filles, vous m'entendez?
Yes, sir. We hear you.
Please, I need help.
Non, je déconne.
Allez. Una are to you.
Hey, boys! Come save me!
We're gonna be fine.
Say it again.
Una are to you.
We're gonna be fine.
Now, go wait.
Allez, action!
Help me!
Action, pourquoi faire?
Comment raconter et surtout comment filmer le combat de femmes plus grande que la vie, fiction ou réalité? Deux façons de s'approcher au plus près du cœur de nos deux héroïnes ce matin. Bonjour tout le monde et salut Laurent.
Bonjour Christine, bienvenue à toutes et à tous.
Restituer un combat, celui d'une femme, contre un laboratoire pharmaceutique surpuissant et raconter la victoire de l'empathie, de la déontologie et du courage. Bonjour Emmanuel Berco.
Bonjour.
Oui, Irène Frachon, qui a dénoncé le scandale du Mediator, méritait bien le traitement d'une héroïne de cinéma. La fille de Brest, votre film, et l'histoire de cette femme hors du commun, la fille de Brest, sort mercredi prochain. Elle ne parle pas, n'a jamais appris à lire ni écrire, et pourtant à 30 ans, Hélène est l'auteur de textes puissants. Bonjour Julie Bertuccelli.
Bonjour.
Elle s'appelle Hélène, votre héroïne de la vraie vie, officiellement autiste, mais vraiment artiste, que vous avez suivie et filmée dans Dernière Nouvelle du Cosmos. Hélène, sa mère fantastique, Véronique, et ce secret, cette connexion profonde avec le mystère du monde, Dernière Nouvelle du Cosmos, en salle depuis le 9 novembre. Enfin, les sorties de cette nouvelle semaine de cinéma avec deux sœurs médiums, Depardieu, un rappeur, une danseuse russe, un chef opérateur hongrois et des bêtes à l'abattoir. Une question à toutes les deux avant de démarrer, pardon pour cette question, mais pourquoi choisit-on la fiction plutôt que le doc ou l'inverse?
Alors moi, c'est vraiment chaque fois instinctivement qu'il y a une chose qui s'impose, quoi. Voilà, parfois c'est une histoire vraie où je me dis ben non, je ne peux pas en faire un documentaire, c'est trop intime. Et puis surtout, ça m'inspire d'en faire une fiction. Et j'ai envie de dépasser cette histoire et rajouter d'autres choses plus personnelles d'ailleurs. Et puis parfois, voilà, même sur Dernière Nouvelle du Cosmos, qu'est-ce que j'aurais fait ? Je me sentais vraiment idiote d'aller demander à une actrice de jouer Hélène et de l'imiter, de vivre ça. C'était tellement, la réalité est quand même souvent beaucoup plus forte que la fiction. Donc quand elle est là à ce point là forte, voilà. Mais il faut, mais vraiment, c'est, il y a pas de règle en même temps. Il peut y avoir des questions déontologiques, plein de choses, une envie de faire de la fiction, c'est une histoire géniale aussi. Hein.
Emmanuel Berco, vous n'auriez pas pu suivre Irène Frachon puisque vous n'avez pas pu la filmer à ce moment-là.
Non, ça ne m'aurait pas intéressé d'ailleurs, je crois.
Ah d'accord.
Non mais déjà, il y a des documentaires très bien, dont un d'Anne Richard qui ont été faits sur cette affaire et sur Irène. Et, non, je pense que moi, je suis je peux pas me comparer à Julie qui a fait beaucoup de documentaires. Moi, j'en ai fait un seul dans ma vie dans le cadre de mes études à la FEMIS. C'est une forme de cinéma que j'adore, mais que je trouve extrêmement compliquée, à vrai dire, beaucoup plus compliquée que la fiction, parce qu'il y a cette distance du regard à trouver, et que moi, j'ai eu du mal dans mon expérience de documentaire à ne pas me sentir un peu voyeuse. Parce que voilà, je découvrais, j'apprenais. Maintenant, je ferais sûrement très différemment aujourd'hui. Mais c'est une forme de cinéma que j'aime profondément, mais que je trouve beaucoup plus difficile que la fiction, en fait.
Le Mediator, c'est le cœur du sujet de ce film. Après, c'est un portrait de femme, bien sûr. Le Mediator, mis au point par les laboratoires Servier, un médicament présenté comme un antidiabétique, utilisé comme coupe-faim, commercialisé à partir de 1976 jusqu'à son retrait en 2009. Retrait dû au combat mené par une pneumologue de Brest, Irène Frachon, qui alerte l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, l'AFSAPS, sur les risques d'accidents liés à la consommation de médicaments. Il est retiré de la vente, certes, mais le bilan officiel, qui paraîtrait être sous-estimé, donne 1300 morts et à peu près 3000 hospitalisations. Avant d'arriver à votre film, on va écouter la vraie Irène Frachon.
Les victimes qui demandent réparation et indemnisation devant les procédures civiles se voient maltraitées par les sbires de Servier et ses avocats qui continuent à déverser les mêmes mensonges et à réfuter toute responsabilité, tout lien, toute faute, tout, de A à Z. Donc il est important
de reconnaître le préjudice subi par ces victimes.
Il faut que la tromperie s'arrête, car c'est une deuxième maltraitance qui s'exerce aujourd'hui sur les victimes. Elles sont abasourdies d'avoir à affronter à nouveau celui qui les a trompées et qui continue ses mensonges. Il faut stopper ça.
Voilà, on voulait juste l'aperçu de cette voix parce que Irène Frachon, elle est devenue à l'écran Citze Babette Knudsen, actrice danoise, héroïne de la fameuse série Borgen. C'est la première belle idée de ce film, Emmanuel Berco, idée soufflée par Catherine Deneuve, merci à elle. Une étrangère, entre guillemets, pour installer une distance entre fiction et réalité, et en même temps une proximité avec ce personnage et cette actrice chaleureuse et pleine d'énergie. C'était casse-gueule en même temps comme idée.
C'était hyper casse-gueule, mais je m'en suis pas rendu compte, et vous avez eu raison de le préciser, ça n'est pas une idée de moi, donc j'en parle d'autant plus modestement. Personne n'aurait eu cette idée qui est totalement incongrue. C'est vrai que Irène Frachon est devenue très emblématique en France des lanceurs d'alerte et elle est devenue très populaire parce que c'est quelqu'un qui arrive à être totalement spontané et sincère et naturel dans les médias. Donc je pense que voilà, les gens ont eu envie de ont eu beaucoup d'empathie pour elle et c'est vrai que il y avait une forme de trahison possible à l'incarner dans une actrice danoise qui parle français, mais avec un accent danois prononcé.
Vous me servez de son danois en plus pour...
Oui, je me sers de son danois.
En aparté, parfois, quand elle est très, très énerveuse.
Non, c'est pour les petites pointes comiques du film, il n'y en a pas beaucoup, mais celle-là, oui.
Il y en a.
Ça crée un exotisme chez elle. Elle est différente des autres aussi, oui. Quoi qu'il en soit.
Elle est différente des autres, mais surtout, c'est vraiment une histoire. Bon, c'est une histoire vraie. Inspiré vraiment de faits réels, mais il y a la transposition du cinéma. Moi, j'ai inventé aussi beaucoup de choses et je trouve que c'est presque plus sain, finalement, et ça universalise le combat qui est le sujet du film, voilà, de cette liberté qui a été prise de l'incarner par une étrangère.
La deuxième belle idée, c'est de s'être focalisé sur une victime qui va symboliser toutes les victimes.
Ouais.
Une femme.
Ouais.
Ça, c'est une idée à vous.
C'est une idée au moment de ça a été un chantier énorme ce scénario puisque c'est 5 ans d'histoire extrêmement complexe et surtout extrêmement technique, scientifique, médicale à concentrer en 2 heures et à rendre surtout accessible à tout le monde. Et on s'est posé évidemment foule de questions sur la direction à prendre. Et il y a eu la tentation que les victimes soient présentes dans le film. La question ne s'est pas posée. C'est évident, le film rend aussi justice aux victimes. Et il y a eu, j'imagine, la tentation d'en incarner plusieurs. Et on a finalement, parce qu'on avait ce souci de concentration, de resserrer les choses au maximum. Voilà, il y en a une qui symbolise, qui est l'emblème de toutes les autres et auquel le personnage, le public... a le temps, en quelques scènes, de s'attacher à elle.
Oui, il y a beaucoup plus d'empathie par rapport, effectivement, à ça.
Oui, voilà, on n'en a qu'une, mais elle a quelques scènes, pas tant que ça, mais le public, les spectateurs ont le temps de s'attacher à elle et de souffrir pour elle.
Irène Frachon, seule femme, seule contre tous, en fait, qui n'est pas habituée du tout à ce genre de confrontation, va devoir justement confronter dans une audition ce fameux laboratoire.
Chez des sujets comme ceux que vous venez de nous présenter, madame, et que nous connaissons tous ici, c'est-à-dire obèses, diabétiques, vieillissants, la maladie valvulaire, voyez-vous, est chose fréquente, banale.
Avec des causes naturelles et de nombreuses comorbidités.
Imputer cette pathologie à notre seul médicament témoigne d'une grande méconnaissance de la question. C'est pas un reproche, vous êtes pneumologue et non cardiologue. Mais dans ce cas, vous pourriez tout aussi bien incriminer l'aspirine, hein ? Vous comprenez ?
Je ne suis ni chercheuse ni cardiologue, en effet. Mais j'ai passé ma dernière année d'internat dans un service de pneumologie où j'ai vu des jeunes femmes mourir après avoir été exposées à un autre de vos médicaments, l'isoméride. C'était beaucoup de jeunes mamans, une fille de mon âge qui avait pris ça parce qu'elle se sentait un peu moche après la grossesse, qu'elle voulait retrouver la ligne. Je vois encore le visage de chacune d'entre elles. Les jeunes femmes sont mortes d'une manière affreuse, sans réparation, sans justice, sans rien, tuée par cette saleté d'un enfant fleuramine.
Ses faiblesses sont belles, son émotivité est belle, Emmanuel Berco, non, à Irène Frachon.
Mais. Et le point sur la table est vrai, hein. On l'a entendu.
Oui, le point sur la table. Non, hein. Mais ce qui est touchant, c'est chez ce personnage, c'est une femme ordinaire, un mère de 4 enfants, pneumologue à Brest, elle avait une vie tout à fait tranquille. Elle a dû se transformer en machine de guerre et rien ne l'a prédestinée à ça. Et elle détonne complètement, en fait, dans ses commissions parisiennes. Et c'est ça qui est beau chez elle. Elle arrive en espadrille, en ciré, là où tout le monde est tiré à 4 épingles. Elle a son franc-parler, sa façon de faire. Elle est aussi, surtout, très émotive, ce qui ne se fait pas dans ses commissions. Et ce qui a fait qu'elle a été extrêmement méprisée, et qu'elle a mis beaucoup d'années à être prise au sérieux, et qu'elle s'est fait aussi humilier dans ses commissions. Mmh. Et c'est vraiment le symbole, là, ce qu'on vient d'entendre, de David contre Goliath, quoi. Elle a rien des codes, en fait, de ce qui est attendu dans ce genre de combat.
Troisième belle idée, c'est d'avoir si harmonieusement mis de chaque côté son combat et sa vie de famille. C'est-à-dire qu'on passe de l'un à l'autre de façon complètement naturelle, parce que c'est un portrait de femme à l'arrivée.
Oui, voilà, c'est ça, exactement. Moi, quand je me suis posé la question de faire ce film, parce que j'ai beaucoup hésité, l'enjeu, c'était d'en faire du cinéma. Du divertissement et du spectacle, même si c'est une histoire dramatique et grave. Et le biais que j'avais pour parvenir à ça, c'était son personnage, le personnage d'Irène Frachon, qui est un personnage vraiment exceptionnel, un grand personnage.
Un soleil.
Haut en couleur, oui, un soleil avec énormément de facettes. Et aussi le genre du thriller, puisqu'elle elle expliquait clairement qu'elle avait eu l'impression pendant ces 5 années d'être dans un thriller. Et je me suis dit... Si j'arrive à raconter tout ça, à dépouiller le film de ses complexités techniques et en faire le portrait d'une battante qui a vécu tout ça comme un thriller, comme un polar, avec du suspense au jour le jour, voilà, peut-être que le public... Oui, et peut-être que le public peut tout d'un coup la suivre dans cette histoire.
Question idiote, mais c'eût été un homme, auriez-vous fait ce film ?
Et c'est pas une question idiote, c'est une très bonne question.
À laquelle il faut maintenant répondre.
Non, moi je pense que elle c'est une femme exceptionnelle. Il y a des hommes exceptionnels. Il y a des femmes qui sont lâches, et il y a des hommes qui sont lâches, qui sont pas courageux, etc. Moi je pense que ce qui m'a séduit chez elle, c'est effectivement elle a eu la force, le courage, la pugnacité, la détermination qu'on associe dans les clichés à plutôt au genre masculin. Mais ça, c'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est si elle a, quand l'explosion médiatique a eu lieu et qu'on l'a tous vue ici et là ou entendue à la radio, si elle a suscité tant d'empathie chez le grand public, c'est effectivement parce qu'elle est une femme et qu'elle parle, qu'elle se contrôle moins sans doute, qu'elle parle avec ses émotions, avec ses tripes, et que c'est ça qui a emporté l'opinion publique derrière elle. Donc là, oui, son statut de femme a compté, mais je pense que j'aurais pu raconter l'histoire, oui, si c'était un homme.
Ce qui est intéressant, c'est que cette actrice danoise, Sisse Babette Knudsen, même dans Borgen, tout d'un coup, elle amène autre chose à la politique aussi. C'est-à-dire que ça vient de cette actrice-là aussi, cette dimension-là. Cette humanité qu'elle apporte.
Elle a plusieurs dimensions. Elle a une dimension assez masculine d'autorité, et elle a cette énergie vitale colossale qu'a aussi Irène Frachon, que j'ai vraiment retrouvée chez elle. Et un autre aspect très important, c'est un côté clownesque, mais avec effectivement une fragilité, une féminité, un charisme. Proprement féminin, mais elle est quand même beaucoup plus fragile finalement dans le rôle d'Irène Frachon que dans celui qu'on l'a vu avoir en Premier ministre pour ceux qui ont vu Borgen.
Il y a beaucoup de femmes derrière ce film, hein. Énormément de femmes. Il y a Irène Frachon, bien sûr, il y a vos deux productrices de Haut et Court qui vous ont poussé dans ce projet-là.
Caroline Benjo, Carole Scotta.
Voilà.
Co-scénariste.
Et puis,
la co-scénariste Séverine Beauchet.
Oui. Et puis aussi, il y a une journaliste qui a été très importante dans l'histoire. C'est la journaliste du Figaro qui s'appelle Anne Jouan, c'est ça.
Oui.
Qui est incarnée par Lara Neumann, c'est comme ça qu'on prononce.
Oui.
D'ailleurs, je voulais vous dire, vos seconds rôles sont incroyables. Il faut peut-être féliciter Angélette Boula, qui est votre directrice de casting.
Je suis tellement contente que vous disiez ça. Ça va lui faire tellement plaisir et c'est tellement justifié.
Oui.
J'ai beaucoup de compliments, même de la part du public, sur effectivement les seconds rôles. Moi, je fais toujours des énormes castings, je vois énormément de gens. Et on a été chercher des gens qu'on ne connaissait pas, pour la plupart des gens qui n'avaient jamais tourné, qui font du théâtre ou d'autres formes de spectacles vivants, mais qui n'avaient jamais tourné. Et ça, je pense que ça participe, à l'authenticité de pas mal de personnes.
C'est une constante dans vos films, hein, on peut le dire.
Oui, oui, non, le casting, c'est moi.
Une
oui,
attention
oui,
au casting.
Je suis une malade du casting.
C'est pas pour rien que vous jouez, par ailleurs, la comédie, vous.
Non, mais là, c'est vrai qu'il y a des belles découvertes.
On va d'ailleurs passer un extrait, donc, entre Irène Frachon et cette journaliste, donc, qui est incarnée par Lara Neumann, sacrée interprète.
Bon, bah moi, je vous pose la question à laquelle votre livre répond jamais. Combien de morts? De morts qu'on puisse vraiment prouver, j'entends.
Parce qu'il vous faut des morts pour vous intéresser. Combien il vous en faut? Parce que moi, j'en ai tenu une dans mes bras, et personnellement, même une seule, ça me suffit.
Faut descendre de votre cheval blanc, sinon on va pas s'entendre là. Quoi? Je lis votre livre insupportable avec sa couverture infâme, et pardon de vous le dire, mais je pense être la seule dans toutes les rédactions de Paris. Vous saturez mon répondeur et vos 300 000 messages pourris, genre, il y a urgence, c'est pas pour que je vous tartine trois lignes tièdes sur votre affaire de Médoc. Vous me farcissez la tête depuis une heure avec vos histoires de vave toxique, de quatre témoins, machin chose, des tue-l'amour comme j'en ai rarement vu. J'écris au Figaro, pas pour la Gazette du Morbihan. Donc si j'ai rien de plus à me mettre sous la dent, je rentre me coucher, moi.
Ceci expliquant cela, elle est excellente. On n'a pas parlé, bien sûr, parce qu'il y a tellement de choses à dire, mais sur cette scène d'autopsie qui est une des plus incroyables que j'ai eu à voir dans un film, et celle-là, plus près de la réalité, sans filtre, pour justement incarner, illustrer les ravages organiques que ce médicament a provoqué. Également une scène, une opération à cœur ouvert, mais tout ça est dans le film. Et le film sort mercredi prochain, Emmanuel Berco. Maintenant, on passe à vous, Julie Bertuccelli.
Est-ce là notre essence ? Vivre dans le format ? S'y confondre ? Lui appartenir ? Décliner une identité dans cette appartenance ? Cette confection de nous-mêmes comme une image de l'être ? Et pourquoi pas le rien comme point de rencontre? Oups. Rêver d'être une boîte de cornichons posée sur une étagère et attendre que quelqu'un s'intéresse à toi pour changer d'étagère. Why not? Sortir de ma bulle pour entrer dans le cercle aux limites domptées depuis la nuit des temps par le géocentrisme indélébile. Pourquoi? Mon père est entré dans la cage et je n'ai plus de père. Regarde, j'ai inscrit sur la porte de ma bulle un message. J'ai envie de la lire.
Extrait de Dernière Nouvelle du Cosmo, Julie Bertuccelli. L'auteur de la pièce arrache le texte au récitant. C'est un spectacle. Et l'auteur est une jeune femme de 30 ans, Hélène, autiste pour le commun des mortels et qui, sans le concours de sa mère, on peut le dire, Véronique, aurait fini dans une institution. Et vous l'avez d'ailleurs rencontrée au cours d'un spectacle.
Oui, parce que Pierre Meunier, le metteur en scène qui a fait ce... qui a adapté, enfin qui s'est inspiré de ce texte poétique pour faire un spectacle. Il avait avant fait un spectacle sur le langage et il avait appris, il est allé dans un centre comme ça pour autistes qu'avait créé Véronique, en fait, la mère d'Hélène, parce qu'il s'intéressait à comment arrive le langage. Surtout, il avait appris qu'une jeune femme qui ne parle toujours pas, et après 20 ans de silence, avait finalement trouvé la porte de sortie et se mettait à écrire.
Vous avez rencontré l'artiste avant l'autiste, en fait.
C'est ça, c'est-à-dire que d'abord il m'a parlé de ses textes. Et puis, je suis allée voir son spectacle. Je le filmais même, d'ailleurs, à l'occasion. Et Hélène est venue le voir. Et puis après, on s'est retrouvés au café d'en face. Et là, sidérée, déjà d'avoir lu ses textes avant. Et puis de la rencontrer et de me dire, voilà, c'est exceptionnel, quoi. C'est une rencontre. Merci la vie de m'avoir fait mettre sur le chemin de cette babouillèque.
Il n'y avait pas de peur de, vous voyez, de trop d'intrusion, de comment la filmer?
Ça, après, c'était plein de questions. J'ai pris le temps de me... de me poser tout ça tranquillement, mais en même temps surtout d'instinctivement faire d'abord cette rencontre avec elle, assez vite avec la caméra, parce que c'est vrai que je l'ai rencontrée un petit peu, et dès que j'ai su que Pierre Meunier voulait en faire un spectacle de son nouveau texte, je me suis dit bah là c'est vraiment l'occasion de faire le portrait de cet artiste et d'avoir plein de moments où je pourrais aussi entendre ses textes lits. Moi, j'avais pas l'intention demander à des gens de lire son texte ou de faire des plans poétiques sur comment elle voit le monde. Enfin, j'avais envie qu'il y ait une histoire très très vivante qui se passe.
Faut quand même expliquer, moi je l'ai dit au début, mais qu'elle ne parle pas. Mm-hmm. Donc, filmer quelqu'un qui ne parle pas, et dont le temps d'expression est long, puisque sa mère lui sort des...
Non, c'est Hélène qui écrit, elle aide par lettre, qui les prend une à une et qui écrit, donc ça prend un peu de temps, mais bon, ça va, cela dit, de plus en plus vite, et puis on devine les mots, mais c'est sûr qu'à filmer, c'est des vrais problèmes de conception d'un film, comment rendre à l'écran des textes, mais... En même temps, c'était aussi cette rencontre avec elle. C'était pas seulement le portrait d'entendre ses textes. C'était comment rencontrer même l'autre. Et qu'est-ce que c'est que de faire un film comme ça sur cette différence, sur comment donner un peu l'information. Le but, c'est qu'on soit de plus en plus proche d'elle, qu'on comprenne malgré ce corps un peu maladroit et difficile où au début on est un peu gêné ou bourré de nos a priori et de nos peurs, comment faire que petit à petit en fait on dépasse ça et qu'on la regarde et qu'on entende et que tout d'un coup on voit qu'elle pense tout le temps, qu'elle est totalement tout ce qu'on n'avait pas pensé au début du film.
Il y a quand même un énorme mystère au cœur de ce film, Julie Bertuccelli, c'est comment a-t-elle pu apprendre, elle qui ne sait ni lire ni écrire.
Enfin, elle sait lire.
Elle sait lire, pardon.
Elle n'a pas appris à l'école.
Comment elle obtient ce vocabulaire, cette expression, mais c'est fascinant.
Mais c'est vrai, c'est tout le monde me dit que c'est un mystère. En même temps, moi, maintenant, c'est de moins en moins un mystère pour moi parce que le cerveau humain est tellement extraordinaire, quoi. Elle a quand même entendu, vu, vécu pendant 20 ans dans une famille qui, malgré tout, faisait plein de choses. Elle est au théâtre, elle a écouté des émissions de radio.
Elle s'imprègne.
Vous savez, les enfants à un an, ils sont pas encore à l'école, on leur parle, ils savent pas encore parler, ils font tout ce qu'on leur dit.
Comment elle a su les écrire? Comment elle a su les écrire?
Les a photographiés, les a pris sans faute d'orthographe. Il y a plein d'explications de la puissance elle-même dit j'ai joué avec toutes les parties secrètes de mon cornichon de cerveau. Elle mémorise tout, une fois que c'est rentré dans sa tête, elle a joué avec le dictionnaire. À un moment donné, sa mère, quand elle a découvert par hasard qu'elle savait en fait lire et écrire, elle lui a fait plein de tests avec le dictionnaire pour voir si elle connaissait tous les mots. Là c'est rentré comme un. Et puis elle est télépathe aussi, ça c'est un autre truc qui est peut-être un mystère qui nous échappe et qui m'échappe la première, et en même temps je l'ai vu faire et c'est juste sidérant. Mais c'est sa manière à elle, je crois que c'est vraiment un don. Maintenant, je commence à me dire, ça y est, je suis tombée dans le truc. Mais c'est vrai que beaucoup d'Américains, d'ailleurs, font des études sur les autistes. C'est quelque chose qui se développe beaucoup, beaucoup chez eux. Et que sûrement, que c'est un don qu'on a tous à la naissance, mais qu'on atrophie, qu'on n'utilise pas parce qu'on utilise...
Ou que cette affection, ce symptôme contrebalance.
Oui, on sait bien aussi la mémoire,
l'hypermémorisation, par exemple, c'est un des symptômes, effectivement, de ça.
Non, c'est vraiment un sens qui se développe à fond pour contrebalancer, ou qui aussi, peut-être, ayant ça, ne fait qu'il ne développe pas d'autres choses. On n'est pas encore au fait de tout, mais...
C'est aussi un film sur la médiation, parce qu'il lui faut des médiateurs. Sa mère, le metteur en scène, vous, évidemment. Donc c'est un film là-dessus aussi.
C'est-à-dire qu'il lui faut pour s'exprimer auprès de nous, mais sinon il lui faut rien. Elle est dans sa bulle pendant 20 ans, elle avait même pas envie trop de sortir d'ailleurs, de rentrer en contact avec nous, parce qu'elle voyait que nous on était tellement limités, tellement enfermés dans nos rapports sociaux, dans nos trucs qui nous rendent beaucoup... Elle est libre totale, quoi. Elle est sans limite, elle explose la perception de tout le monde, parce qu'effectivement elle joue avec les mots et avec la pensée, elle pense loin, elle voit tout, elle comprend tout, et rentrer dans notre monde qui fait qu'on n'utilise pas tout ça, c'est nous les handicapés, les hyper limités par rapport à elle. Donc elle n'avait pas trop envie de sortir. Sa mère, ayant vu que petit à petit elle a fait un travail incroyable et a réussi quand même à l'approcher, à faire qu'enfin on s'adapte à elle et qu'on comprenne quel est son fonctionnement, ce qu'elle supporte, ce qu'elle supporte pas, comment elle ressent, parce que c'est vrai que jusqu'à très récemment elle sentait pas ses pieds, ses mains. Il y a un vrai problème avec le corps, de se rentrer dans son corps, mais en même temps les autistes, il y a plein de cas d'autisme différents, et je suis pas spécialiste, mais souvent ils parlent beaucoup de non-limite, quoi. Ils ne sentent pas la limite de leur corps, donc tout peut être très invasif, et en même temps ils sont partout, ils entendent tout, ils comprennent tout à tous les niveaux en même temps, donc du coup cette liberté totale fait que ils vont loin, quoi.
Je disais, une héroïne dans ce film, c'est sa mère,
c'est une fille,
qui a dédié sa vie à sa fille.
Qui a dédié, alors sans sacrifice aucun, parce que, c'est, comme elle dit elle-même, vraiment, c'est plutôt avant que c'était dur, quand, pendant les 14 premières années où elle l'avait mis dans une institution, hôpital de jour, où elle la voyait tous les soirs, tous les week-ends, mais où petit à petit, voilà, la communication était de plus en plus loin, sa fille était dans un coin, ne touchait à rien, elle hurlait dès qu'on la touchait, elle était vraiment une bulle de silence et de semblait de douleur, comme ça, mais... Et donc ça a été dur. Et quand elle a décidé un jour d'éteindre, non, là, c'est pas possible, c'est pas aussi non plus les médicaments qu'on va donner à ma fille dans ces centres qui vont faire que je vais la laisser comme ça. Il y a quelqu'un dans ce corps, c'est pas possible, c'est ma fille, c'est dans tout corps, il y a une âme, quelque chose. Elle a décidé de la sortir. Et du coup, tout ce temps, effectivement, elle a arrêté son métier de cavalière, elle a un peu changé sa vie. Mais c'est que du bonheur, quoi. C'est que un épanouissement incroyable de découvrir ce qu'elle a découvert, de faire progresser. Puis en plus, elle lui a appris d'aller dépasser les limites tout le temps. C'est-à-dire que dépasser nos premières limites à nous. Et puis chaque fois, chaque jour, elle progresse encore, chaque jour, là, tout le temps. Je l'ai encore vue hier, je les ai vues toutes les deux. Maintenant, elle arrive à passer par-dessus un mur sans tomber, à descendre un escalier sans plus tenir à la rampe. Elle fait des progrès énormes d'un point de vue moteur, ce qui fait que peut-être le langage va vraiment venir de plus en plus, parce qu'il y a toute une coordination générale qui fait qu'elle est plus dans son corps qu'avant. Et donc, Véronique a toujours appris, et c'est un truc qu'elle me dit souvent, à toujours dépasser les limites, mais pour tout. Donc, elle est en total épanouissement.
Mais ce film ne doit pas donner de faux espoirs aux parents d'autres autistes.
Non, pas de faux espoirs, mais une porte quand même. C'est que je pense qu'elle n'est pas la seule à avoir cette chose en elle. Et l'institution fait peu, peut pas prendre ce temps-là, ou devrait le faire. Et on n'a pas non plus effectivement tous les cas sont pas pareils.
Et tous les cas sont pas pareils. Il faut vraiment beaucoup dire ça.
Ouais, mais ouais. Il n'empêche que il y a quand même espoir que peut-être pas. Bon, elle est spécialement poète, certes, et ok. Mais il y a plein d'autres manières. Il y a des autistes qui sont grands peintres, qui font plein de choses différentes. Enfin, c'est pas peu importe qu'elle soit poète ou pas. Mais il y a quand même un truc à trouver qu'on trouve pas toujours et qu'il y a en tout cas de temps en temps cette possibilité. Et ça, pour l'instant, moi, les gens que j'ai rencontrés, ça leur donne au contraire un espoir. Aucune culpabilisation, parce que c'est vrai que c'est très dur et que c'est complexe et qu'il faut beaucoup de temps et que voilà, mais il faut pas se sentir du tout coupable. Ce n'est pas question de ça. C'est de se dire qu'il faut faire ils espèrent toujours quand même, les parents. Il y a jamais de raison d'abandonner. Mais là, il y a une vraie chance que c'est peut-être possible.
C'est pour ça aussi que vous avez fait le film.
Oui et non. Enfin oui, mais c'était une
conséquence, c'est pas un but.
Oui, c'était une conséquence. C'est vrai que c'est d'une manière générale, c'est cette différence qu'on a du mal à voir, qu'on a du mal à accueillir, qu'on a du mal à concevoir, à respecter, à encourager. Bon, ben là, c'est toujours dans ce sens-là qu'il faut se dire, bah oui, la richesse, elle est aussi chez l'autre qui est avec nos a priori étrangers, handicapés, je sais pas quoi. Et qu'en fait, c'est eux qui vont nous apprendre. Et c'est dans ce sens-là, d'une manière générale.
On écoute cette héroïne, Véronique, sa mère.
Le désir d'écrire.
Ouais.
C'est venu.
C'est pas venu comme ça, non. J'avais pas de fille, quoi. Je vivais à côté de quelqu'un qui n'existait pas pour moi, ni pour personne, puisqu'elle pouvait rien exprimer. Et donc, on a nous fait cette recherche, toutes les deux, savoir où. Enfin, qui on était l'une pour l'autre, d'abord. Qu'est-ce qui fait qu'Hélène ne me reconnaissait pas? En fait, ça fait partie des problématiques des personnes avec autisme. Ils sont tellement différents dans leur lien à l'environnement qu'ils ne reconnaissent pas l'autre. Au bout d'un certain temps, il a fallu du temps, on a commencé à se reconnaître et à s'apprivoiser quelque part, parce qu'il faut une confiance. C'est une livraison du soi qui est tellement profond, ce que j'expliquais tout à l'heure. C'est tellement profond, il faut tellement aller chercher les choses tellement loin pour les dépasser qu'il faut une énorme confiance en soi déjà et puis en l'autre. Hélène, maintenant on peut s'en rendre compte, elle a des grosses capacités intellectuelles, comme une identité intellectuelle très aboutie, mais corporellement elle n'a pas de moyens pour l'exprimer. En fait, elle l'exprime pour nous, parce qu'on avait nous un besoin de l'entendre, de savoir qui était Hélène dans son identité. Mais Hélène sait qui elle est, donc elle n'avait pas ce besoin de l'exprimer. Et puis il y avait beaucoup de barrières à passer, quoi. Et donc ça a été un très très long parcours de recherche, de savoir où Hélène à quel endroit elle existait, puisque tout était là. Moi, je lui ai rien appris sur le plan d'écriture. L'écriture, c'est Hélène, elle l'a dans elle depuis toujours, en fait. Les mots existent en Hélène, je sais pas comment elle fait.
Emmanuel Berco, vous avez vu Dernière Nouvelle du Cosmos?
Oui.
Alors,
C'est un film qui, à titre intime, m'a énormément touchée. Je ne vais pas aller plus loin que ça, de façon plus, plus large, je crois que la vertu du documentaire, c'est et on peut remercier Julie pour ça, c'est que sans Julie, on n'aurait pas rencontré Hélène. Et que moi, face à Hélène, j'imagine comme tous les spectateurs qui ont vu ou verront le film, on se sent très petit, très pauvre, un peu minable. Et qu'en cela, le film est extrêmement stimulant, parce qu'effectivement, les choses se passent aussi ailleurs. Et ça raconte aussi, enfin, je trouve que c'est le portrait de trois femmes magnifiques. Hélène, sa mère, effectivement, quand on est en plus, quand on a un enfant en plus, ça nous renvoie beaucoup de choses aussi sur ce que c'est que d'être parent. Et puis Julie, qui pour moi est le troisième personnage du film et qui est une très belle personne.
Merci.
Non, mais ça se sent dans la façon, le respect, ta bienveillance pour cette fille et sa mère. Et le documentaire, c'est ça aussi que ça raconte, c'est le lien entre celui qui filme et celui qui est filmé. Et je trouve que dans la façon dont Julie a regardé évoluer cette jeune fille, sa maman, le metteur en scène, il y a des plans sur cette Hélène dans le film, des longs plans oui. d'elle en silence qui disent mais tellement plus que tous nos mots, et même tellement plus que n'importe quel acteur qui joue les silences. C'est prodigieux, c'est miraculeux, c'est ça la grâce quoi. Donc, j'étais complètement bouleversée par ce film. Et c'est vrai qu'on peut remercier Julie.
Bon, merci.
On aurait passé une vie sans connaître l'existence de cette jeune fille. Et moi, j'y pense tous les jours depuis que j'ai vu le film, à elle.
Dernière merci. Nouvelle du Cosmos qui est sortie le 9 novembre. Et votre film, Emmanuel Berco, La fille de Brest, qui sort mercredi prochain. On se retrouve après The Divine Comedy pour évoquer les sorties de ce mercredi. So many heartbreaks, so little time, too many tragedies, too many crimes. Put on your body armor, prepare your alibi, 'cause there is no one else gonna put it right. To the rescue, down the streets and Chinese takeaways, through the wind and driving rain, to the rescue, to the rescue. When the world won't understand, governments got other plans. Sleeping in my bed, I looked for Marilyn. I got Jay instead, yes I did. But I'll march behind you wherever you may go. Through the snow and freezing rain, down deserted country lanes. bon parmi tous ces films, cette ribambelle de films, Laurent, qu'est-ce qui a le mieux marché ce mercredi?
C'est curieux, on dirait une semaine de vacances scolaires, ce qui n'est pas le cas. Donc en tête du podium, Les Animaux Fantastiques, le succès de Harry Potter, enfin Les Nouvelles Aventures, pas oui. tout à fait. Mais en deuxième position, un dessin animé, Vaiana, La Légende du Bout du Monde. Et puis en troisième place, un film français qui s'appelle Iris.
On va commencer par Planétarium, le nouveau film de Rebecca Zlotowski, Paris fin des années 30. Kate et Laura Barlow, deux sœurs médiums américaines, finissent leur tournée mondiale. Fascinés par leur don, un célèbre producteur de cinéma, André Corben, les engage pour tourner un film très ambitieux, prise dans le tourbillon du cinéma, des expérimentations et des sentiments. Cette nouvelle famille ne voit pas ce que l'Europe s'apprête à vivre, Laurent.
Oui, moi, c'est mon coup de cœur de la semaine, vraiment. Alors, vous savez, on se souvient du petit carton qui annonce dans Nosferatu, « Passer le pont, les fantômes vinrent à sa rencontre ». C'est une des plus belles phrases du cinéma muet, noir et blanc, mais même de tout le cinéma mondial. Eh bien, les fantômes viennent à la rencontre des héroïnes du planétarium, deux femmes, deux sœurs. Zlotowski continue, comme une certaine Emmanuelle Berko, à n'avoir que des héroïnes femmes, mais c'est très bien ça, c'est une bonne contrebalance à des décennies de héros masculins dans le cinéma, donc c'est bien. Et ces deux sœurs, elles sont effectivement confrontées aux fantômes du cinéma qu'un producteur voudrait absolument voir apparaître sur la pellicule. C'est peut-être ce que font beaucoup de cinéastes, que d'essayer d'aller à la recherche de fantômes. Truffaut le faisait très bien dans Adélache ou dans La Chambre Verte ou dans Les Deux Anglaises. On sent l'influence de Truffaut, c'est une bonne influence à mon sens, mieux vaut être influencé par Truffaut que par Maurice Cloche par exemple. Donc de ce point de vue-là, Planétarium réussit avec un magnifique souffle romantique assumé. C'est un beau grand film romanesque qui tranche en plus avec les deux films précédents de Zlotowski. C'est là aussi où elle a beaucoup de mérite. Elle aurait pu rester dans son petit cocon autoriste français de qualité, de très grande qualité. Mais non, elle choisit autre chose avec Portman en représentant. Et des tas de beaux rôles aussi, comme celui de Pierre Salvadori, par exemple, que moi j'ai eu beaucoup de plaisir à trouver en acteur dans ce film-là. Et également Emmanuel Salinger. Voilà, allez voir Planétarium, c'est un magnifique film.
Planétarium, c'est un projet effectivement très ambitieux, mais cela, on ne va pas lui reprocher. Et que de thèmes abordés dans ce devoir, cette copie d'une très bonne élève. L'exposé est brillant, l'image très belle, la musique vraiment originale, les acteurs impeccables, pas de faute de goût, c'est intelligent. Mais alors, que manque-t-il à Planétarium ?
Rien.
La chair, l'émotion, et si elle trouve ça trop vulgaire, l'empathie, il manque cette sensation d'être plongé dans une histoire dingue, parce que l'histoire est dingue. Il manque aussi le ressenti avec les personnages, le danger, la folie, l'amour, les fantômes, l'excitation du cinéma. Or, l'objet est froid, affecté, calculé, millimétré, parfait, mais mon Dieu que la perfection est ennuyeuse. On a l'impression constante qu'il y a derrière Planétarium l'idée d'un film, mais jamais le film. On passe à Close Encounters with Vilmos Siegmund. Ça, c'est une belle histoire. Pierre Filmon, en même temps qu'il est projectionniste au cinéma Le Grand Action à Paris, développe des projets de films. Alors, il prépare un film et il rêve de le faire éclairer par un certain Vilmos Siegmund, qui a notamment éclairé L'Épouvantail, Rencontre du Troisième Type, Voyage au bout de l'enfer, Délivrance ou Le Privé d'Altman. Le film ne se fera pas. En revanche, lui réalisera un doc sur le chef-op.
Oui, oui, très beau documentaire. Inspiré parce qu'il y a un personnage inspirant. Et moi, il y a une scène notamment qui me plaît beaucoup parce que elle n'était pas si évidente que ça. C'est une scène autour de Blaut et dans laquelle on voit John Travolta. Et c'est très intéressant de confronter le regard d'un chef-op avec des acteurs, parce qu'au fond, un chef-op, ça filme des acteurs, c'est fait pour ça. Et c'est pas souvent le cas qu'on voit cette confrontation-là, qu'on voit le regard, qu'on voit ce qui se passe entre un acteur et celui qui réellement le filme. Donc ça, c'est très très beau. Le documentaire est un documentaire cinéphile, mais c'est tellement belle cinéphilie qu'on ne peut que le recommander.
Il y a plusieurs façons d'évoquer la jeunesse des banlieues au cinéma. Il y a celle de Swagger, en laissant la parole très libre à des collégiens et en les remettant en scène dans leur contexte avec des couleurs sur leurs rêves et leurs ambitions, de l'humour, de l'enchantement, de l'empathie. Un cinéma, peut-on lire dans Libé, qui vient réparer ce que d'autres ont abîmé. On ne peut pas mieux dire. Ou abîmeront encore, là, on évoque Tour de France de Rachid Djadani, qui fonce, lui, dans les clichés, l'histoire de ce jeune rappeur qui, victime d'un règlement de compte, va fuir Paris avec le père de son producteur. C'est Depardieu, c'est une belle idée, un vieux râleur et un jeune rappeur finiront-ils par s'entendre? Choc des cultures, généreux message et un peu naïf, Laurent.
Ah oui, c'est quand même l'histoire d'un beauf raciste qui n'aime que Serge Lama et qui rencontre un jeune rappeur qui, lui, évidemment, parce qu'il est un peu mieux que le beauf raciste, il aime aussi Serge Lama. Mais lui, il confond évidemment le 18e siècle avec le 18e arrondissement. Enfin, tout ça est quand même d'une lourdeur absolue. On n'évite aucun des clichés sur la France que c'est si bien, par ailleurs, par exemple, filmé Raymond Depardon. Alors, à Sète, il y a des joutes sur le canal. À Bayonne, on parle basque. Et à Marseille, évidemment, on rencontre des jeunes des cités. Tout ça pour ça, mais ça ne fait rien, ça ne dit rien sur la France, ça ne dit effectivement beaucoup moins que Swagger que vous venez d'évoquer à tout à fait juste titre, qui à mon avis est le contrepoint exact du film. Et franchement, on est un peu sidéré de voir que pour un certain de nos confrères, oui, ça dirait des choses sur la France. Non, ça ne dit rien. Et quand en plus Depardieu massacre et la Marseillaise alors que Gainsbourg l'avait beaucoup mieux fait avant lui, et surtout Serge Reggiani, alors là c'est le bouquet final et on n'en veut pas. Voilà.
Gorge, cœur, ventre, j'adore ce titre, de Maud Alpi, un docu avec un peu de fiction dans un abattoir, regardé par deux témoins, un jeune homme et son chien. Quelle drôle d'idée.
Oui, c'est surtout le regard du chien qui est une drôle d'idée quand même, parce que je suis pas sûr qu'un chien ait un si beau regard que ça. Alors évidemment, le truc, bah enfin, je suis pas à la place du chien. Le truc, c'est que le film est très très beau esthétiquement, ça se tient. Il y a un vrai propos cinématographique. On peut pas dire que on ne sait pas où placer la caméra. Bien au contraire, tout ça est très pensé. Après, sur ce que ça dit sur le fond, sur cette espèce de perplexité bovine avant la mort, je ne suis pas certain que ça dise énormément de choses. Mais ça tombe bien. Ça tombe bien, puisqu'il y a encore récemment des scandales sur les abattoirs qui viennent de tomber dans l'actualité, à juste titre d'ailleurs.
Tana, dans l'une des dernières tribus traditionnelles du monde, une jeune fille rompt son mariage arrangé pour s'enfuir avec l'homme qu'elle aime. C'est une histoire vraie et c'est un Roméo et Juliette, quoi.
Oui, c'est du Shakespeare au Vanuatu, mais ça, ouais. c'est le prétexte au fond. C'est pas le plus intéressant du film, parce qu'il est fait par deux documentaristes très très sérieux, très aguerris. Et au fond, l'intérêt c'est ça, c'est que sur une petite base fictionnelle qu'on peut partager d'ailleurs de façon universelle, ils construisent une fable, mais une fable superbe sur cette tribu absolument classique où il y a des fantômes en permanence, les esprits sont là, ça plairait à Rebecca Zlotowski. Il y a des fantômes partout et c'est ce que montre si bien le film avec une image d'une beauté à couper le souffle. On est dans une poésie à l'état pur.
Ça s'appelle Tana. Absolument. Maintenant, elle s'appelle Paulina. Danser sa vie, de Valérie Muller et Angelin Prel-Jocage. Le destin d'une jeune danseuse russe qui, à la veille d'intégrer le Bolshoï, découvre la danse contemporaine et va tenter de casser sa technique pour trouver enfin sa voix. L'idée était jolie. Surtout venant d'un grand chorégraphe comme Angelin Prel-Jocage. Dommage qu'il n'ait pas réussi à élever le propos et le sujet est surtout à intégrer plus harmonieusement ses chorégraphies au récit qui ne décolle pas, sans compter le manque de charisme de sa jeune interprète. Ça fait beaucoup quand même.
Je partage, à l'exception d'un pas de deux formidablement bien filmé à la fin.
Iris de Jalil Lesper, avec Romain Duris, Charlotte Lebon et Jalil Lesper. Iris, la femme d'Antoine Doriot, un riche banquier disparaît en plein Paris. Max, un jeune mécanicien endetté, pourrait être lié à l'enlèvement. Mais les enquêteurs sont encore loin d'imaginer la vérité sur l'affaire qui se déroule sous leurs yeux.
Ben oui, on pouvait penser que le porno chic soft était mort, ben non, il renaît de ses cendres avec Jaïl Lesper, je suis pas sûr qu'il faille le remercier. L'histoire du banquier et de la pute, ça n'a strictement aucun intérêt, mais vraiment, c'est-à-dire qu'il y a des rebondissements, vous savez qui, on ne sait pas trop, qui manipule qui, etc. Alors, surtout, n'allons pas parler de suspense hitchcockien, comme certains le font. Non, franchement, ça n'a guère d'intérêt.
Affectados, ou Rester debout, entre guillemets, de Sylvia Mount, frappé de plein fouet par la crise économique en 2008 à Barcelone. Donc en Espagne, un collectif citoyen apolitique et spontané s'est mis en place pour proposer son aide aux victimes des prêts toxiques.
Oui, parce que non seulement ces gens ont effectivement été victimes de cela, mais on les a expulsés de leur logement et on leur demande de continuer à payer les remboursements de leurs prêts, ce qui quand même s'appelle la double peine. C'est ce que montre et c'est ce dont parle ce formidable documentaire qui... Oui, c'est vrai, manque totalement, voire enfin en tout cas beaucoup de cinéma, c'est clair, on pourrait le voir sur un écran de télévision, ça ne changerait rien, mais au fond sur ce qu'il dit et sur les personnages, entre guillemets, qu'il nous montre, sur ces vies brisées, sur ces témoignages incroyables de gens qui malgré tout résistent, eh bien ça donne envie au moins de se battre, et dans les circonstances actuelles c'est pas si mal.
On va pas se faire de mal Laurent, on va pas s'étendre sur le petit locataire.
On va pas.
de Nadège Loiseau.
Bon. Je suis d'accord.
Alors, on va terminer par... Oui, on a réussi à parler de 9 films, hein, toutes les deux. On va vous offrir le même cadeau.
Oui, l'ultime, hélas, film d'une cinéaste qu'on a beaucoup aimé, Solveig Hanspach, L'effet aquatique. Voilà, il vient de paraître, c'est le Pacte qui l'édite, et c'est un beau cadeau final qu'elle nous a fait, un film extrêmement émouvant, on en avait beaucoup parlé, et on l'avait beaucoup aimé ici même.
Vous l'aviez...
Voilà.
Je l'ai vu plusieurs fois, j'adore.
Et elle, vous la connaissiez?
Je la connaissais très bien, ouais, je suis très très émue de recevoir ça.
Voilà, avec un scénario co-écrit avec Jean-Luc Gaget qui intervient dans les bonus de ce beau DVD. Voilà.
Magnifique.
Allez, enfin, il se termine, alors allez, toutes dernières heures du festival d'Albi, qui s'appelle Les Œillades, qui est un beau festival qui rend hommage d'ailleurs à Jean-Louis Trintignant en sa présence.
Très heureuse d'avoir reçu deux grandes réalisatrices, Julie Bertuccelli pour Dernière Nouvelle du Cosmos qui est sortie depuis le 9 novembre et Emmanuel Berco pour La Fille de Brest. Tout est sur les...
Tout est sur franceinter.fr à la rubrique On aura tout vu, bien évidemment. Vous nous retrouvez, vous laissez aussi vos commentaires.
Merci beaucoup à toutes les deux et générique.
C'est une émission inspirée par tous les films de cinéma.
Il y a des réalisateurs et des acteurs.
Puis il y a aussi des scénaristes et des chefs opérateurs.
Les prises de vue sont des prises de son.
Et Sporton Contes a écrit la musique du générique.
Les morceaux ont été choisis par Muriel Pérez.
Martine Messonnier s'est occupée de la préparation.
C'est une émission réalisée par Anne Weinfeld.
Et elle est produite et présentée par Christine Masson et Laurent Delmas.
Et moi. Emmanuel Berco, j'y étais.
Et moi, Julie Bertuccelli, j'y étais aussi.